VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Point final du détournement de l'avion de ligne de la compagnie libyenne Africa Airways à Malte. Les deux pirates de l'air se sont rendus aux autorités maltaises qui les ont placés en détention, a annoncé sur Twitter le Premier ministre de Malte, Joseph Muscat. Auparavant, tous les passagers à bord de l'appareil qui assurait un vol intérieur de Séba dans le sud de la Libye à destination de Tripoli, la capitale, avaient été remis en liberté. Les deux pirates sont des partisans de l'ancien régime de Muammar Kadhafi qui réclame l'asile politique à Malte, a déclaré pour sa part le ministre libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'Union nationale, Taher Siala. Selon le ministre, les auteurs du détournement voulaient en outre annoncer la création d'un parti politique pro-Kadhafi. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du dictateur Muammar Kadhafi en 2011. RDC, au moins 40 personnes tuées, 460 arrêtées dans le pays cette semaine. Tel est le bilan des violences pendant les manifestations de protestation dans plusieurs villes contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. C'est ce qu'a indiqué l'ONU dans un communiqué aujourd'hui en se basant sur les recherches faites par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC. Selon les déclarations de la porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Liz Trossel, au cours d'un point de presse à Genève, le bureau en question a documenté au moins 40 meurtres de civils à Kinshasa, Lubumbashi, Boma et Matadi. Et 107 personnes ont été blessées ou ont subi des mauvais traitements. Le 20 décembre notamment, 13 civils ont été tués à Kinshasa, la capitale, par des membres des forces de défense et de sécurité. Et le même jour à Lubumbashi, la seconde ville du pays dans le sud-est, au moins 8 hommes et 2 enfants ont été tués, 60 personnes blessées par les forces de l'ordre, a souligné Mme Trossel. Au plan politique en RDC, l'accord négocié sous l'égide de l'Église catholique pour sortir de la crise provoquée par le maintien au pouvoir du président Kabila reste à portée de main, mais ne devrait être signé qu'après Noël, annonce l'AFP. C'est illusoire de penser à une signature aujourd'hui, vendredi, mais on peut aboutir à un consensus en plénière aujourd'hui, a déclaré à l'AFP une source à la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, à propos de la séance plénière convoquée ce vendredi pour adopter les termes définitifs de l'accord. Selon cette source, la signature pourrait intervenir entre Noël et le Nouvel An. Les tractations finales butent encore sur deux points, la question de la composition de la commission chargée d'organiser les élections et celle du partage des rôles pour le gouvernement du pays pendant la période de transition politique. Pourtant, les délégués des deux camps, la mouvance présidentielle et l'opposition, avaient affiché un certain optimisme à la sortie des négociations jeudi soir. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Kinshasa, Charlie Kasereka.
C'est tard dans la nuit que les évêques et les membres des deux délégations sont sortis de la salle pour rencontrer la presse. Et les évêques, comme les quelques délégués, se sont exprimés devant les médias avec des petites réserves. Mais dans les propos, on pouvait sous-attendre une certaine satisfaction. Il se peut que Kabila ait fait de larges concessions pour faire avancer les négociations. Il a par exemple accepté, selon plusieurs sources ici, qu'il soit écrit dans l'accord qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat et qu'aucun projet de modification de la Constitution ne soit entrepris. Mais c'est lui, Kabila, qui conduit la transition. Une autre avancée à signaler pour ces négociations est que l'organisation de la présidentielle vient d'être avancée pour fin 2017 et non plus en 2018. Dans la démarche, il y aura la composition des gouvernements provinciaux, mais l'Assemblée nationale et le Sénat demeurent, comme aussi les assemblées provinciales. Charlie Kasereka, Kinshasa pour VOA Afrique.
Au Cameroun, sommet des chefs d'État de 6 pays d'Afrique centrale sur fond de rumeurs de dévaluation du franc CFA suite aux problèmes économiques suscités dans la région par la chute des cours du pétrole. Le FMI et la France ont participé à la réunion à Yaoundé de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui regroupe le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. La réunion avait été convoquée d'urgence dans la semaine par le président du Cameroun, Paul Biya, qui s'est inquiété dans son discours d'ouverture d'une croissance en berne et du retour de l'inflation dans la sous-région. Victime de la chute des cours du pétrole et des matières premières, l'Afrique centrale apparaît comme l'homme malade du continent africain par rapport au dynamisme de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Ouest, notamment. La croissance en 2016 ne sera que de 1% dans la sous-région contre 2,4% en 2015, a indiqué cette semaine la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, qui souligne les effets dépressifs de la morosité du secteur pétrolier. En comparaison, l'Afrique de l'Ouest se porte nettement mieux. La Côte d'Ivoire, par exemple, a enregistré une croissance de 8,5% par an en moyenne entre 2012 et 2015. Et le Sénégal revendique une hausse de son PIB, le produit intérieur brut, de l'ordre de 6% pour 2016.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RCA, Noël à la maison. C'est le nom d'une opération lancée par le gouvernement centrafricain qui vise à inciter les quelques 28 000 déplacés du site de l'aéroport de Mpoko à Bangui à regagner leur domicile. Depuis cette semaine, le camp de fortune est en plein démantèlement. Reportage de notre correspondant sur place, Freeman Sibila.
Alors que le site est en pleine destruction, certains déplacés ne savent pas encore où aller. Les maisons de location sont devenues rares et les prix ont même doublé dans les quartiers supposés être en sécurité. Ce père de foyer a dû négocier provisoirement une chambre chez son cousin.
Dans le 3e arrondissement, nous avons notre maison là-bas. Comme la guerre a commencé, on a quitté, on a regagné l'aéroport Sidi-Mpoko. La maison est détruite, tout est pillé, il n'y a rien, c'est rien qui est terrenu, il n'y a rien dedans. J'ai demandé à un cousin de dormir chez lui comme la famille d'accueil. Après, je vois si je peux avoir une maison. Mais c'est un peu difficile. Hein. Avec mes maigres sommes, je ne peux pas payer une maison comme ça. J'ai des enfants et ma femme. Et puis, tu vois, c'est un peu difficile. Je n'arrive pas à louer une maison.
8 000 ménages représentant 28 000 personnes devront vider d'ici la fin de l'année le site des déplacés de l'aéroport de Bangui. L'opération bénéficie de l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Actualité hors d'Afrique, maintenant, attentat de Berlin en Allemagne. Le principal suspect de l'attaque au camion Bélier lundi sur un marché de la capitale allemande a été abattu ce matin dans une fusillade à Milan dans le nord de l'Italie. Les détails avec Idrissa Seloudia.
Le relevé des empreintes digitales de l'homme abattu par la police italienne confirme qu'il s'agit bien du Tunisien Anis Amri. Selon l'agence de presse italienne ANSA, le suspect a été abattu vers 3 heures du matin après avoir été contrôlé par la police près d'une gare de la banlieue de Milan. Il a ouvert le feu et blessé un policier après s'être vu demander ses papiers d'identité pendant un contrôle de routine. À Berlin, un porte-parole du parquet fédéral a indiqué que les autorités allemandes étaient en contact avec leurs homologues italiennes. Anis Amri était arrivé en Europe en février 2011. En passant par l'Italie, il a passé près de 4 ans dans une prison italienne jusqu'en 2015 avant de se rendre en Allemagne. Les polices européennes avaient lancé une chasse à l'homme pour retrouver le Tunisien de 24 ans dont les empreintes digitales et une pièce d'identité ont été retrouvées dans le camion qui a tué 12 personnes et en a blessé des dizaines d'autres à Berlin.
Actualité aux États-Unis, le président élu américain Donald Trump affirme vouloir renforcer et augmenter les capacités nucléaires des États-Unis. Cette déclaration intervient seulement un jour après que le président russe Vladimir Poutine a tenu des propos similaires. Gabi Dorsil.
Selon Vladimir Poutine, l'arsenal nucléaire de la Russie mérite d'être considérablement accru. Dans ses commentaires sur les diverses campagnes de l'armée russe en 2016, M. Poutine a expliqué que ces améliorations permettront de neutraliser n'importe quelle menace militaire. Il nous faut surtout des missiles capables de pénétrer efficacement tout système de défense, a-t-il ajouté. Les États-Unis et la Russie possèdent actuellement une quantité presque identique d'armes nucléaires, soit 7100 et 7300 respectivement, selon des données compilées par une association non partisane basée aux États-Unis. L'appel de Donald Trump intervient également au lendemain d'une rencontre en Floride avec plusieurs hauts gradés de l'armée américaine. On ignore cependant s'ils ont discuté de la question nucléaire. Durant la campagne électorale, M. Trump avait vacillé sur ce thème, suggérant tantôt que le monde serait plus sécurisé avec davantage d'armes nucléaires, mais disant plus tard qu'un monde nucléarisé fait vraiment peur. Toute augmentation de l'arsenal nucléaire américain représenterait un changement majeur de la politique de Washington, qui a toujours mis l'accent sur la réduction de telles armes.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.